VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 5 mai 2022. Jean-Roger Villon à ce micro. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. Le président du Togo accepte d'être le médiateur dans la crise au Mali. En Somalie, l'élection présidentielle fixée au 15 mai, après plus d'un an de retard. Élection locale aujourd'hui au Royaume-Uni, un scrutin test pour le premier ministre Boris Johnson. Ukraine, la communauté internationale s'engage pour la reconstruction. La Russie reconnaît que l'aide occidentale retarde ses plans. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a jugé aujourd'hui nécessaire de maintenir une mission internationale au Mali pour empêcher le pays de s'effondrer, en plaidant pour une force africaine avec un mandat onusien plus robuste. Le Conseil de sécurité doit se pencher en juin sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui a été créé en 2013. La dégradation des relations entre le Mali, la France et ses alliés suscite par ailleurs des interrogations quant à ses répercussions pour la MINUSMA et une éventuelle remise en cause de la faculté que le Conseil de sécurité confère à l'armée française d'apporter son soutien à la MINUSMA en cas de menace grave et imminente. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a accepté d'être le médiateur dans la crise politique au Mali au moment où la junte est l'objet de pressions pour établir un régime civil. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et son homologue togolais ont annoncé mercredi soir à la presse depuis Lomé que M. Gnassingbé avait accepté cette tâche. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie malienne à l'issue de sa rencontre avec Faure Gnassingbé.
Vu les difficultés qu'il y a, nous avons, au nom du président de la transition, sollicité le Togo, sollicité le président Faure Gnassingbé pour pouvoir user des bons offices et aussi vraiment user de sa sagesse, de son expérience pour pouvoir aider à faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux, mais plus largement le dialogue avec l'ensemble de la communauté internationale pour pouvoir trouver un compromis qui puisse nous permettre de sortir le Mali de cette situation, mais aussi de renforcer la stabilité de la région. Nous savons que le président Faure Gnassingbé a une approche mesurée, équilibrée et constructive par rapport à la gestion de la situation politico-sécuritaire de la région en général, mais surtout par rapport à la gestion des processus de transition. Et que dans ce cadre aussi, nous savons qu'aujourd'hui le Mali est un pays qui est sous un embargo de la CEDEAO, et nous savons aussi que le Togo lui-même en tant que pays a vécu plus de 15 ans sous les sanctions internationales. Et nous pensons que le Togo a la légitimité aujourd'hui de pouvoir aussi partager sa petite expérience avec le Mali.
Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, rappelons que M. Diop a affirmé qu'en raison de la situation sécuritaire et du besoin de réforme, le Mali a besoin de 24 mois pour établir l'ordre constitutionnel. Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO ont entamé à Accra une réunion de 2 jours visant à renforcer la coopération militaire dans la région, s'adressant aux représentants et des chefs d'état-major des armées à Accra, la capitale du Ghana. Le ministre ghanéen de la Défense, Dominique Ntiwul, a évoqué les groupes armés et criminels qui font la hausse de l'insécurité. Il a déclaré qu'en 3 ans, la région a subi plus de 5300 attaques imputées aux terroristes qui ont fait environ 16 000 morts et plus de déplacés. Un proche de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot et vivant en exil depuis plusieurs années, a été arrêté à Abidjan. D'après Moussa Touré, le chef de la communication de Guillaume Soro, le commandant Abdoulaye Fofana, est détenu dans les locaux de la gendarmerie à Abidjan. En 2021, la justice ivoirienne avait lancé un mandat d'arrêt pour trouble à l'ordre public et port illégal du treillis contre le commandant Fofana après de nombreuses déclarations de celui-ci sur les réseaux sociaux appelant à une mutinerie des soldats ivoiriens. Le roi des Belges, Philippe, se rendra en voyage officiel en République démocratique du Congo. Ce sera au mois de juin sa première visite dans l'ancienne colonie belge depuis le début de son règne en 2013. Il sera en RDC donc du 7 au 13 juin, accompagné de la reine Mathilde et du premier ministre Alexander De Croo, a précisé le palais royal belge dans un communiqué. L'Afrique du Sud a confirmé aujourd'hui l'obligation du port du masque pour les enfants à l'école, se ravisant peu après avoir annoncé sa levée, alors que les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse dans le pays. Le ministère sud-africain de la Santé a publié un communiqué pour dissiper la confusion générée par une erreur humaine malheureuse et regrettable qui lui avait fait annoncer quelques heures plus tôt la fin de cette mesure de prévention. En Somalie, l'élection présidentielle attendue depuis plus d'un an se tiendra le 15 mai, a annoncé ce jeudi le comité parlementaire chargé d'organiser ce scrutin maintes fois reporté. Claire Morin-Gibou.
Les membres du comité se sont mis d'accord pour le 15 mai lors d'une réunion aujourd'hui, a confirmé sur Facebook l'ancien porte-parole du gouvernement et député Mohamed Ibrahim Moalimou. Selon le calendrier diffusé par la chaîne de télévision publique, l'enregistrement des candidatures aura lieu le 8 mai et les candidats s'exprimeront devant le Parlement les 11 et 12 mai. En Somalie, le président est élu par les députés et sénateurs. Un candidat doit rassembler au moins les deux tiers des voix, soit 184 voix. Quatre candidats font figure de principaux concurrents face au président Farmajo, qui briguera un nouveau mandat. Ses deux prédécesseurs, Hassan Sheikh Mohamud et Sharif Sheikh Ahmed, son ancien premier ministre, Hassan Ali Kerr, ainsi que le président de la région du Puntland, Saïd Abdoulaye Dani. Le mandat du président sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed dit Farmajo, est arrivé à échéance en février 2021, sans qu'il soit parvenu à organiser une nouvelle élection.
Des journalistes ont manifesté aujourd'hui contre les violations qui menacent selon eux les libertés en Tunisie, notamment depuis le coup de force du président Kais Saied dénonçant une politique répressive contre les médias. À l'appel du syndicat national des journalistes tunisiens, les manifestants ont défilé dans le centre de Tunis, scandant des slogans contre les tentatives selon eux des autorités de domestiquer les médias et de les transformer en outils de propagande.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Britanniques ont voté aujourd'hui lors d'élections locales décisives pour l'avenir du Premier ministre Boris Johnson après le scandale du Partygate et de l'Irlande du Nord où les républicains du Sinn Féin espèrent une victoire historique. Jacques Aristide.
Des milliers de sièges sont en jeu dans des conseils locaux en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, ce qui permettra aux électeurs de s'exprimer pour la première fois après des mois de révélations sur les fêtes tenues à Downing Street pendant les confinements. La popularité de Boris Johnson, à 57 ans, dont bientôt 3 en tant que chef du gouvernement, s'est effondrée après le Partygate, scandale qui lui a valu une amende et des appels à la démission. Le Lib, principal parti d'opposition, veut tirer profit de ses faiblesses, même si son chef, Keir Starmer, 59 ans, a lui-même été accusé d'avoir enfreint les règles sanitaires pour avoir partagé bière et curry avec son équipe l'an dernier. En Irlande du Nord, c'est un séisme politique qui s'annonce. Les sondages donnent le Sinn Féin en tête de l'Assemblée locale pour la première fois en 100 ans d'histoire de la province britannique d'1,9 million d'habitants sous tension depuis le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais ces élections sont marquées traditionnellement par des enjeux très locaux et une très faible participation.
La Russie a reconnu aujourd'hui que le soutien occidental ralentissait son offensive en Ukraine, affirmant qu'il ne l'empêcherait pas de remplir ses objectifs. La communauté internationale, elle, a entamé la réflexion sur un soutien à plus long terme dans la perspective de la reconstruction de l'Ukraine. Rosine Monezero.
Conjuguées aux approvisionnements en armes, les actions de l'Ukraine et de ses alliés ne permettent pas d'achever rapidement l'opération, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ces actions occidentales ne sont toutefois pas en mesure d'empêcher que les objectifs de l'offensive russe en Ukraine soient remplis, a-t-il ajouté. Jusqu'ici, Moscou n'a pu revendiquer le contrôle total que d'une ville ukrainienne d'importance, Kherson, dans le sud. Mais la Russie espère, après 2 mois de siège et de bombardement, prendre bientôt complètement le port stratégique de Mariupol, où les derniers combattants ukrainiens sont retranchés, avec des civils, dans les souterrains de l'immense aciérie Azovstal. Dans un message vidéo diffusé mercredi soir, le commandant du régiment Azov qui défend l'usine affirmait que des combats sanglants sont en cours à Azovstal avec des soldats russes présents dans l'enceinte de la Syrie. La communauté internationale a affiché jeudi son soutien à l'Ukraine en s'engageant à fournir des fonds supplémentaires pour l'aide d'urgence et en entamant la réflexion sur un soutien à plus long terme dans la perspective de la reconstruction du pays.
Volodymyr Zelensky a invité à Kiev le chancelier allemand Olaf Scholz ainsi que le président Frank-Walter Steinmeier 3 semaines après avoir snobé ce dernier quand il avait voulu s'y rendre. Le président ukrainien et le chef de l'État social-démocrate ont eu jeudi une conversation téléphonique qui a permis de dissiper les irritations suite au refus de Kiev de recevoir à la mi-avril M. Steinmeier. En France, les partis qui soutiennent le président français Emmanuel Macron sont parvenus à un accord pour s'unir au sein d'une confédération ensemble en vue des élections législatives des 12 et 19 juin. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Moufa.
L'exploitant minier canadien Ivanhoe Mines et son partenaire chinois Zijin Mining ont annoncé le 3 mai leur intention de mettre en œuvre la phase 3 de développement du complexe minier congolais Kamoa-Kakula. Ils estiment qu'avec cette phase 3, ils pourront produire annuellement 600 000 tonnes de concentré de cuivre. D'après mining.com, la RDC pourrait alors disposer, d'ici le quatrième trimestre 2024, du troisième plus grand complexe de production de cuivre au monde. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Thomas Ostros, signe aujourd'hui avec les autorités camerounaises un accord de financement d'environ 80 milliards de francs CFA. Ces fonds sont destinés à la réalisation des travaux de renouvellement de 330 km de voies ferrées entre Bélabo et Ngaoundéré, deux villes situées dans les parties est et nord du Cameroun. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré mercredi qu'il cherchait à faire revenir sur les marchés mondiaux les productions agricoles ukrainiennes et russes pour aider à mettre fin à la crise subie par les pays émergents depuis l'offensive russe en Ukraine. La progression des prix du blé est particulièrement préoccupante selon le FMI, qui note que l'Afrique subsaharienne importe 85% de sa consommation de cette céréale. Or, la Russie et l'Ukraine sont deux exportateurs majeurs de blé.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. En football, en République démocratique du Congo, seuls 5000 spectateurs sont autorisés à assister au match aller entre le TP Mazembe et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc à Lubumbashi ce dimanche 8 mai dans le cadre de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'est ce que révèle une correspondance de la CAF adressée ce jeudi à la Fédération congolaise de football. Cette décision est une sanction suite au jet de projectiles et l'envahissement de l'aire de jeu après le match contre Pyramide FC 2-0 par les supporters du club de Lubumbashi selon Afrique Foot. Le président de la FEGAFOOT, Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mungengi, 64 ans, mis en examen et placé sous mandat de dépôt à Libreville pour non-dénonciation de crimes de pédophilie dans une affaire d'agression sexuelle présumée de centaines d'enfants, ce qu'il conteste selon son avocat Charles-Henri Jey. Le scandale, révélé par un journal britannique fin 2021, a éclaté quand Patrick Assoumou-Eyi, alias Capello, entraîneur de la sélection nationale des moins de 17 ans jusqu'en 2017, a été incarcéré après avoir été accusé de centaines de viols et agressions sexuelles sur des enfants dont il avait la responsabilité dans ses fonctions. Deux entraîneurs de clubs, Orphée Mikala et Trifel Mabika, ont également été mis en examen pour les mêmes chefs et incarcérés. Les trois hommes risquent 30 ans de prison. La FIFA a ouvert mardi une enquête disciplinaire visant les trois entraîneurs et Mungengi. Pour terminer en NBA, Phoenix a écarté Dallas 129-109 mercredi, faisant déjà le break de 0 dans leur série de play-offs, comme Miami, qui a de nouveau battu 109-103 une équipe de Philadelphie, toujours orpheline de Joel Embiid. en tête 60-58 à la mi-temps, mené de 6 points seulement, 89-83 à l'entame du dernier carton. Les Mavericks de Luka Doncic n'ont rien pu faire contre le récital de Chris Paul en fin de match. Le meneur vétéran a alors inscrit 14 de ses 28 points à 6-7 au tir, portant son équipe à un 23-2 qui a éteint les espoirs de Dallas.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, l'ancien président de la République Alpha Condé fait face à la justice de son pays. Il est poursuivi, lui, 26 dignitaires du régime déchu pour, entre autres, des faits d'atteinte volontaire à la vie humaine, notamment complicité de meurtre et assassinat. Alpha Condé et ses proches sont poursuivis par le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Les précisions de la capitale guinéenne avec notre correspondant Zakaria Camara.
Première réaction, celle des victimes. Les faits sont douloureux et varient d'une victime à une autre. Mamadou Sylla a perdu son garçon de 14 ans quelques heures après l'annonce faite par l'opposant Seydou d'Alain Diallo qui s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle de 2020.
Mon neveu m'a appelé, il dit « Ah, oncle, j'ai dit oui, où vous êtes ?» J'ai dit « Oui, je suis au travail, je suis dans mon atelier. » Il dit « Ah, vous connaissez ce qui se passe à la maison ?» J'ai dit « Non. » Directement, il m'a dit « Ah, ils ont fusillé Nassirou. » J'ai dit « Pourquoi ?» Le matin, on s'est déplacé. Ses camarades m'ont dit que son corps est à Nyariwata, dans la mosquée. On est parti, effectivement, on a trouvé le corps là-bas.
Quelques heures après l'annonce des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et ses proches, l'envie d'une justice est encore plus grande chez ce vieil homme.
Quel que soit, moi j'ai confiance à la justice, parce que j'ai confiance à Dieu. Je veux justice et réparation.
Autre réaction, celle des défenseurs des droits humains. Pour Mamadi Kaba, juger les crimes de sang est une opportunité pour les autorités de la transition.
Je crois que cela permettra à la Guinée de renforcer son système démocratique et l'état de droit. Parce que sachez que quand la lumière va être faite sur ces événements, désormais on pourrait avoir des manifestations sans violence et la jouissance des droits civils et politiques ne va plus s'accompagner de meurtres, de violences et autres choses.
Dans les rues de la capitale, les poursuites annoncées contre l'ex-président Alpha Condé ne laissent presque personne indifférent.
Ce n'est pas au niveau du président Alpha Condé seulement. Il faut, si c'est la justice, ceux qui ont fait sortir des enfants aussi devaient être présents.
Parce qu'en convoquant un président de la République, logiquement, on trouve ça normal parce que c'est la justice. Personne n'est au-dessus de la justice. Mais le mieux, c'est de penser en africain.
C'est une bonne chose parce que dans un pays, s'il y aura la paix, s'il y aura l'harmonie, il y aura toujours la justice. Cette justice ne viendra que par l'État.
Parmi les personnes poursuivies par le procureur général près la cour d'appel de Conakry, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kori Kondiano, ou encore Mohamed Djani, ancien ministre de la Défense nationale. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la tournée du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest cette semaine. Il s'agit d'un périple effectué précisément au Sénégal, au Niger et au Nigeria. Antonio Guterres réclame le départ des jeunes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. L'occasion également pour lui d'aborder le danger terroriste au Sahel, tout comme celui du climat, sans oublier l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'Afrique. Que pensez-vous de ce voyage africain d'Antonio Guterres? Que peut davantage faire l'ONU pour aider le continent? Faites vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Le ministère burundais des Transports vient de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers à Bujumbura et à l'intérieur du Burundi. Malgré cette hausse significative des prix, l'on observe un manque criant de l'essence et du mazout sur bon nombre de stations et le prix du ticket de transport vient d'être également revu à la hausse. Reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Sur l'avenue de l'université à la station Kobil, s'observe une rangée interminable de voitures et camions qui attendent impatiemment leur tour pour remplir leur réservoir à essence et ou mazout. Remplir sa voiture ces derniers jours devient une gymnastique très difficile. En plus d'une deuxième hausse de ces produits pétroliers ce mardi, la rareté de ces produits pousse les conducteurs de taxi à augmenter le prix de transport sur quasiment toute l'étendue de la République. Ce jeune homme, Nikoya Nyobama, célibataire, affirme que le gouvernement devrait tout faire pour obtenir ces produits qui se raréfient du jour au lendemain.
Je suis très fatigué même. Ça fait plus de 4 jours que je cherche de l'essence, mais je ne le trouve pas. J'ai décidé même de laisser garer ma voiture devant une station. J'attends comme tout le monde, mais on dit que l'essence, on a rehaussé le prix de l'essence, mais on ne le trouve même pas. Quel gouvernement augmente les prix, ça ne dit rien, mais qu'on puisse trouver l'essence. C'est ça l'important.
Des bousculades sont observées devant cette station Kobil vers les heures de midi, chacun voulant être servi le premier malgré la présence des policiers chargés de la sécurité. Cet homme, Karikuru Ubu, vient d'avoir l'opportunité d'avoir de l'essence, mais après avoir passé de nombreuses heures devant la station Kobil.
Je dirais j'étais sur la station depuis 9 heures. Maintenant, je viens d'avoir une chance d'avoir de l'essence. Mais je dirais que c'est une opportunité parce que les autres souffrent. Ils sont là-bas, mais je ne sais pas s'ils vont avoir cette opportunité comme moi. Mais je pense que ça va y aller quand même. On est toujours sur la station, on attend toujours. Il y a même des autres qui passent la nuit là-bas. Je demande à l'État que ça pourrait progresser un peu, oui.
Ce professeur d'université qui a requis l'anonymat est arrivé sur la file de voiture vers 14 heures. Il attendra le temps qu'il faudra et peu importe le prix.
Oui, nous sommes habitués. Nous allons attendre au plus 2 heures. Bon, nous sommes habitués. C'est l'habitude maintenant. Nous sommes habitués. J'ai arrêté tout ce que je dois faire pour faire la queue. Pour le moment, je demanderai si je trouve un responsable, un représentant du peuple. Tu sais ce qu'on demande, c'est d'avoir les stocks suffisants.
Le manque des produits pétroliers est devenu un casse-tête pour les citoyens burundais. Mais le président Évariste Ndayishimiye rassure et indique que tout rentrera dans l'ordre dans un proche avenir. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les autorités kenyanes forment les travailleurs domestiques qui acceptent des emplois au Moyen-Orient sur leurs droits après des années d'abus, de passage à tabac, de viol et des décès de ces employés. Les autorités kenyanes affirment qu'il y a eu au moins 23 cas depuis novembre, la plupart en Arabie Saoudite. Suivant le reportage de Victoria Amunga depuis Nairobi, le récit est de Claire Morin-Jibou.
Voilà un an que Bernard Njenga a appris que sa femme, Esther Toukou, est décédée en Arabie Saoudite où elle a été employée de maison pendant 3 ans. Les autorités saoudiennes ont signalé que sa femme s'est suicidée au domicile de son employeur, raconte M. Njenga, qui pense que son épouse, mère de 4 enfants, a été assassinée.
Le corps de ma femme ne portait aucune marque qui montre qu'elle s'était pendue, car il y aurait eu des marques autour du cou. Nous nous sommes rendus compte que son corps avait été enterré parce qu'il était très sale et qu'on aurait dit qu'elle avait été poignardée au côté gauche. Cela n'a rien à voir avec une pendaison.
Les autorités kenyanes affirment que depuis novembre, au moins 23 travailleurs domestiques sont morts alors qu'ils travaillaient au Moyen-Orient. La plupart de ces décès sont survenus en Arabie Saoudite. Les autorités saoudiennes ont signalé que 23 décès résultaient d'un arrêt cardiaque. En avril 2020, Amnesty International a rapporté que les Kenyans qui travaillent comme domestiques au Moyen-Orient se plaignent souvent de manque de paiement, de travail forcé, de violences physiques, de viols et de conditions de travail dangereuses. Aujourd'hui, le Kenya offre une formation à la sécurité aux travailleurs domestiques qui acceptent des emplois à l'étranger. Edith Murogo est directrice de l'East Africa Institute of Home Care Management à Nairobi.
So when you don't train them, then basically you are exposing them to exploitation and abuse.
Si vous ne les formez pas, vous les exposez à beaucoup d'exploitation et d'abus. Une partie de la formation comprend également une sensibilisation aux droits du travail. Ils doivent savoir négocier et parler aux employés de conditions d'emploi décentes.
Ces derniers font partie des 30 000 Kenyans qui migrent chaque année vers le Moyen-Orient pour trouver du travail. Le ministre du Travail, Simon Chelougui, a déclaré qu'il travaillait avec des responsables saoudiens sur des réformes du droit du travail.
We would want, in case, we would want them to also upscale their laws.
Nous voudrions qu'ils renforcent également leur législation pour protéger les travailleurs et les employeurs de manière égale, pour ne pas faire des discriminations et que l'attitude de l'employeur soit toujours juste. Deuxièmement, le salaire doit être raisonnable et proportionné au travail.
VOA a contacté l'ambassade d'Arabie Saoudite à Nairobi pour obtenir une réaction sur ces allégations de mauvais traitements et de décès de travailleurs kényans. Dans une réponse par email, l'ambassade a déclaré que le royaume ne tolérerait aucun mauvais traitement illégal envers qui que ce soit et a déclaré que Riyad travaillait avec Nairobi pour protéger les citoyens de toute infraction. Pendant ce temps, les responsables affirment qu'avec environ 2 millions de jeunes diplômés chaque année, selon les chiffres nationaux, et seulement environ 800 000 nouveaux emplois, de nombreux Kenyans vont continuer d'aller travailler à l'étranger pour trouver du travail.
La Banque centrale américaine a annoncé mercredi une hausse de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage. La Fed a agi pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint Jean-François Seznec, spécialiste de la finance de la capitale américaine.
Le taux que la Banque centrale utilise pour prêter aux banques, aux autres banques, et les banques à ce moment-là peuvent emprunter de l'argent et repasser l'argent à leurs clients avec une marge bénéficiaire aussi. Ça donc augmente la capacité de prêter. Bien sûr, s'ils augmentent le taux de base, les banques vont à nouveau passer cette augmentation à leurs clients.
Est-ce une bonne décision pour vous? Vous l'attendiez?
Oui, tout le monde l'attendait. Hein. Je pense que même le marché des actions n'a pas tellement bougé. Il a même augmenté ce matin assez sérieusement parce que les gens avaient peur que le Federal, que la Banque centrale augmente son taux encore plus que de 1,5%. Et donc, comme ça ne s'est pas passé, le marché des actions a monté et tout le monde s'y attendait parce que l'inflation, bien sûr, est très importante. Et tout le monde s'attend au fait que ça va encore augmenter plus tard parce que l'inflation va continuer à augmenter.
La Fed a deux missions principales, assurer la stabilité des prix et le plein emploi. Paris réussit selon vous?
Alors oui, dans un sens, pour le moment, c'est encore réussi parce que l'emploi est extrêmement tendu aux États-Unis. Il y a presque un tout petit peu plus de 3% de chômage, qui est vraiment très peu, mais l'inflation est encore très, très importante. Alors en augmentant les taux, ils essayent, et pas trop pousser l'augmentation des taux, ils essayent d'influencer le montant de l'inflation, et tout en ne faisant pas trop de dommages au chômage.
Le dollar, c'est une monnaie qui est utilisée internationalement, beaucoup de pays en tout cas, en Afrique, pour importer. Quel va être l'impact sur ces pays qui utilisent le dollar?
Écoutez, c'est un impact difficile, bien sûr, parce que et pas tellement à cause des taux d'intérêt, mais plutôt à cause du fait que l'inflation monte et que les pays africains vont payer encore plus pour leurs importations, ce qui, en fait, dans un sens, c'est pas trop mal, parce que ça va forcer un petit peu ou donner un peu une capacité aux pays africains de produire eux-mêmes, si vous voulez. Et ça, c'est peut-être une bonne chose, finalement. Mais c'est pas facile, bien sûr.
C'était Jean-François Seznec, spécialiste dans les affaires et la finance.
Un projet pilote au Sénégal a permis de former 120 jeunes dans l'hôtellerie, une expérience fondée sur le système éducatif suisse qui met l'accent sur les formations professionnelles pour permettre de meilleurs débouchés sur le marché de l'emploi. Le Sénégal va étendre ce projet au secteur de l'agrobusiness, du numérique et du bâtiment. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire vont mettre en place des projets similaires. Y a-t-il suffisamment de formations professionnelles dans votre pays ou les filières classiques ont-elles toujours meilleure cote? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct au plus 1 202 205 26 33.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.